Donc, je présenterai des éléments de contexte qui expliqueront sans doute pourquoi les tensions que Mike Lewis a identifiées existaient bien au Québec, mais ont peut-être été moins fortes. Alors, c'est un peu le premier point. Et Margie va rendre compte un peu du bilan concernant les ARUC. Parce qu'en ce qui me concerne, j'ai été à vos rencontres de la phase 2. Et en ce qui concerne, moi, j'ai été plus à l'origine de la phase 1 et directeur de la phase 1 avec Nancy Nintam. Alors, je vais suivre ici. Alors, historiquement, peut-être expliquer que les rapports entre l'économie sociale et la recherche, c'est des rapports qui sont très étroits, surtout lorsqu'on parle d'économie sociale. C'est parce que le mouvement coopératif, comme le mouvement d'économie sociale, c'est un mouvement d'idées. Et donc, dès le départ, il y a des utopies. Et dans les utopies, que ce soit Owen et d'autres, il y a aussi des éléments de théorisation ou de réflexion sur la société. Deuxièmement, c'est aussi des mouvements qui veulent se répandre par la conviction, par l'exemplarité. Donc, la nécessité d'une légitimation et d'explication, et d'avoir des contenus à diffuser pour motiver. Et aussi parce que lorsque ces expérimentations existent, elles sont très complexes. C'est ce qu'on nous dit, très complexes. Et d'où la nécessité d'avoir des connaissances pour pouvoir avoir des fonctionnements qui vont être complexes, participatifs, mais en même temps efficaces. Et au Québec, dès qu'on a parlé d'économie sociale, on retrouve la recherche. Dès le 19e, on le retrouve aussi au début du 20e avec Édouard Montpetit, avec le Père Lévesque un peu plus tard. Donc, cette présence, cette préoccupation d'avoir un lien entre l'économie sociale, le mouvement coopératif et la recherche. Et d'ailleurs, il y a un historien au Québec qui a montré que les phases d'expansion du mouvement coopératif en particulier ont été en même temps des phases de rapprochement avec les chercheurs. En ce qui concerne aussi l'ensemble institutionnel, il y a un nombre important d'expérience. Et je pense, entre autres, la nouvelle génération d'universités qui avait une troisième mission de service à la collectivité. Il y avait au Québec aussi, et ça a été initié à Sir George William, qui est maintenant Concordia, le CIRIEC Canada qui réunissait les chercheurs et les praticiens dans les entreprises d'économie sociale, de coopératives et publiques. Il y a eu, donc je n'énumère pas au complet, mais pour sauter aux deux dernières expériences, celle de l'UQAM avec les services à la collectivité, qui a joué un rôle fondateur là-dessus, de même qu'à Concordia, avec l'École des affaires communautaires et publiques et l'Institut également. Et enfin, qu'est-ce que le rôle de Marc Renault avec le Conseil québécois de la recherche sociale et aussi son rôle au CRSH. Et dans l'expérience, dans les 35 dernières années, il y a eu deux expériences, la recherche-action et la recherche en partenariat avec participation des partenaires. Alors, dans la recherche-action, ce qui a été le cas au Québec, pas nécessairement partout ailleurs, mais ça a été le fait d'avoir des recherches qui portent sur des expériences qui ont été réalisées et d'avoir des recherches pour penser des réalisations et des expérimentations. Et dans ce contexte de recherche-action, qui était, il y a un tandem où on retrouve des chercheurs qui sont des militants et on retrouve des praticiens qui deviennent chercheurs. Et là, il y a comme une espèce de rencontre des rôles. Et alors que dans la recherche partenariale, on aura quelque chose de beaucoup plus complexe dans une certaine mesure, puisque ça ne sera pas uniquement des actions recherche ponctuelles, mais ça sera des protocoles qui assurent une continuité. Donc, une dimension institutionnelle, quasi-contrat, et des comités de pilotage avec des agents de développement et une certaine différenciation des rôles et une professionnalisation des chercheurs aussi. Alors, ce qui est différent dans la première des années 75 à 90 en particulier, où c'était plus le côté militant qui motivait les chercheurs, alors que dans la deuxième partie, ça ne disparaît pas complètement, mais il y a ce côté. Et il y a aussi des bases épistémologiques sur lesquelles je n'insisterai pas nécessairement, mais qui ont été codifiées ou problématisées de diverses façons, soit à travers la question des modes de connaissance que vous connaissez sans doute, et aussi de la triple hélice. On peut voir, continuer, oui, c'est pas le plus. Sur la RUC numéro 1, on peut dire donc que dans le cas du Québec, il y a quelque chose d'extrêmement nouveau, c'est une innovation, mais il y a une certaine continuité. Et ce qui est nouveau en ce qui concerne, c'est surtout d'avoir, en ce qui concerne pour nous, c'était le fait que ça soit centré sur l'économie sociale. Parce qu'avant, c'était souvent sur le mouvement coopératif. Là, ici, ça oblige à faire des ponts, des liens. Et aussi, c'est que c'est le financement, c'est le fait d'avoir un financement académique qui fait une place au partenariat. Et dans ce sens-là, cela constitue, à mon sens, ce qu'on appelle une innovation institutionnelle. Et c'était aussi d'avoir un partenariat avec des partenaires du milieu, mais aussi de plusieurs universités, et d'avoir des partenariats à plusieurs échelles, au plan, comme on a dit tout à l'heure, institutionnel, au plan organisationnel, et même aussi au niveau de chacun des projets, avec un agent de développement et de liaison. Et tout cela constitue en sens une innovation institutionnelle et dans une certaine mesure aussi des innovations organisationnelles. Et la façon de travailler, c'est pour cela que c'est que tous ces chantiers de développement local, les développements durables, et tout ce que vous voyez là aussi, soit dans le logement communautaire, c'est que le principe de ces chantiers, surtout quand c'est des formes ovales, c'est le fait d'identifier une grappe de pratiques. Il y a des pratiques d'innovation dans le logement communautaire, mais il y a aussi une grappe de chercheurs, et de faire le lien entre ces deux. Donc, on partait pas de zéro, il y avait quand même les grappes étaient soit virtuelles ou soit réellement existantes, et donc c'était de partir de quelque chose, sauf des deux chantiers qui, eux, étaient transversaux sur l'évaluation et sur les échanges internationaux, et on peut voir aujourd'hui, puis avec tout, comment ces chantiers ont réellement donné beaucoup de résultats. Alors, je passe maintenant la parole à Margie pour la partie bilan son.
I am condemned always to rapid fire, so I will go very quickly into phase two, which is really what brings us all together here under the social economy hub. And we were very fortunate that we had two curas that overlapped. The first, which Benoit outlined, was thematic. These were research partnerships on particular themes, and the second was regional, territorial. And so you had the benefit of 5 years of earlier experience that could be brought to bear on the new cura, which was regional, eight regions across Quebec, in which you had academic researchers and social economy partners. The governance of these two curas existing simultaneously was actually very interesting, and I think should be written up in the sense that we really created what we could call an epistemic community of researchers and non-academic partners. And the decision making, I think, is a model that should be replicated and certainly documented. I'm only going to make reference to a couple of milestones, given that we should go quickly, but we wanted to look at some of the outcomes that resulted from our collaborative work. Finance was a thematic cura, but it continued on over into the second phase. And as a result of working together over a number of years, the practitioners who are named here in blue and the academic researchers worked together to promote the creation of a network. These actors had been informally networked for many, many years and had collaborated, but we felt that the formation of a formal network was very strategic in terms of representing this financial sector in its capacity to serve the social and solidarity economy, but also to demonstrate that it was a competitive actor in the financial markets. As well, the cura in finance, and I'm focusing on this one only, there are many initiatives that came out of others. One of the other concrete results was the fiducie du chantier de l'économie sociale. 4 years of dialogue, discussion, research, invitations to experts and researchers and practitioners from other parts of the world. So it was very rich in terms of having some very concrete outcomes that now continue in very important ways. I added here just a little note at the end on Réseau Capital, which is a network of the mainstream financial players, and many of these organizations are also a member of Réseau Capital. When we formed, or when they formed Cap Finance, one of the members received a telephone call asking, well, you know, why do you need this? So we felt that the mere question was an indication that we did need it. I'm not going to go back over the how did this happen. Mark Renault made reference to it. But I would like to say that Benoit and I were very privileged to be invited to write the background, sort of back to the future, to write the background document to help shape the CURA program nationally. And, you know, I invite you just to read what we wrote at the time. And today's question is whether we achieved this, whether we were able to actually codify tacit knowledge, whether we were able to disseminate the results of this research the way we had hoped we would, not only within the academy, but also within the social economy sectors and practitioner organizations. This is a question that's an important question. Mike, you raised the issue of academic peer-reviewed publications. There was a mixture of both, and I'll come back to that in a second. I'm going very rapidly. Go ahead. What are the lasting results? Well, I think that the continuation of this partnership, even though it is now, the grant is over, is a confirmation that the relationship was institutionalized. The relationship is solid. The funding, of course, is necessary, and the challenge is to be able to see how funding can be sought to be able to continue this collaborative research. But I think, unlike all of us who are academics, are accustomed to having a research grant, the period is over, you submit your publications or your reports, and you move on to other work. What was troubling for me personally, and I think for many of us in the academic world, I think are two things. One is that this was such an important initiative, this CURA, coast to coast for all of us who worked on the social economy. And I think the SSHRC under Mark's leadership did a wonderful thing. But these are grants. And as a granting agency, you can't designate this as an ongoing institution. And we created a methodology. We trained a lot of students who pursue this methodology in their research. And the infrastructure disappeared because the funding is no longer available. So I think this, for the SSHRC, is an important time for them to do some self-examination, because it isn't a typical type of support. And if you create an institutional transformation, which is what this did in the universities, somehow the support has to continue. If not directly from the SSHRC should be working with ministries of education and the universities to be able to see how this can be, this can remain a process that is supported, that's supported adequately. We also produced, and I had in the milestones, five monographs. A few of the authors are here: Marie Bouchard's book, Yves Vaillancourt's book on home care with Christian Jeté. We produced a book on finance, a book on the city of Montreal. There was a fifth one, and I can't remember what it is because we skipped the slide. And also, I think I just go back for one second, because I think one thing that we did, which was very useful for all of us, not just for us here in Quebec, were these research guides that were produced by the CURA. One on research partnerships, and the second on the Guide for Knowledge Mobilization. These are in the form of manuals. They are available in English and in French, and they've been used very widely, not only in Canada. I've circulated this to colleagues in other parts of the world, and I know my colleagues have done likewise. Also, a video that we produced that is excellent, called At the Crossroads of Partnership Research. It has been translated. It was produced in French. There are English subtitles. And this has even been, it's even on the website of the United Nations Development Program, their Art Universitas Educational Program. So in terms of knowledge transfer or knowledge sharing or mobilization, I think we did you know, quite well. We could also obviously have done a lot more. And finally, the influence on and participation in public policy. I'd like to just end there because it is really the subject of this forum. The Quebec National Action Plan, which is now in its third year, it was passed implemented in 2008, was not a direct result of CURA, by no means, but there were researchers in the CURA and practitioners in the CURA setting that helped to formulate some of the arguments that were bought, let's say, or that had purchased with the provincial government to help shape this national action plan, which was very much a dialogue. And likewise, the social economy partnership that exists in the city of Montreal, city of Montreal convened a group of people to work together on formulating this partnership, and at the table were practitioners, representatives of the municipal government and researchers. And the researchers were invited because of this legacy that the CURA in Quebec had provided to demonstrate the importance of this kind of collaboration. We've brought a lot of students on board. Many students are here over these 3 days working as volunteers. So the influence on young people has been, I think, very significant and has shaped a lot of masters and PhD theses. So I think altogether it is a very good experience, and a lament is only that unfortunately it was a contingent experience in terms of its capacity to continue in the way that it exists right now, but it does continue despite the fact that the funding is no longer available. Thank you.